Merci Thierry. Alors, il y a 2 ans à peu près, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales a réalisé une étude internationale sur le sentiment de réussite en partenariat avec l'Institut de sondage CSA. Et les personnes interrogées devaient dire si elles estimaient avoir réussi leur vie et en fonction de quels critères elles évaluaient la réussite de leur vie. Et l'étude a révélé que la plupart des êtres humains, en tout cas dans les pays qui ont été sondés, la plupart des êtres humains aujourd'hui associent le sentiment de réussite, d'une part à leur vie professionnelle et d'autre part à leur vie sociale. Autrement dit, aujourd'hui, on a réussi sa vie si on a un bon métier qui nous procure de la satisfaction et de la joie. Et puis, si on a par ailleurs de bonnes relations avec la famille et les amis. Mais vous, que répondriez-vous à cette question ce matin? Vous et moi, qui nous tenons aujourd'hui dans une maison funéraire, en présence du cercueil de Lucette, devant cette réalité douloureuse et inéluctable qu'est la mort, eh bien, en fonction de quoi allons-nous évaluer la réussite de notre vie? Et qu'aurait répondu Lucette? Vous savez, les gens se tournent çà et là pour trouver des repères pour leur vie, pour donner un sens à leur vie, pour faire en sorte de réussir leur vie si possible. Mais ces repères, que ce soit la réussite professionnelle, que ce soit des relations sociales épanouies ou autre chose, ces repères suffisent-ils réellement à susciter une vraie paix, une vraie confiance, une vraie satisfaction à l'approche de ce rendez-vous funeste qu'est la mort et auquel nous sommes tous convoqués? Il se trouve que le texte que nous venons d'entendre, que Thierry a lu, a été écrit par l'apôtre Paul à un moment où lui-même savait que sa mort était proche. Et à travers ce court témoignage, il a voulu, je pense, nous transmettre à ses lecteurs de l'époque et encore à nous aujourd'hui, une leçon très importante. Et c'est la suivante. Pour que le sens de ta vie soit le bon, assure-toi que la destination de ta vie soit la bonne. Pour que le sens de ta vie soit le bon, assure-toi que la destination de ta vie soit la bonne. Et avant tout, j'aimerais vous faire remarquer le bilan que l'apôtre Paul fait de sa vie. J'ai combattu le bon combat, dit-il. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. L'apôtre va bientôt mourir, et il le sait. Et pourtant, quelle assurance, n'est-ce pas? Il est convaincu d'avoir fait ce qu'il était censé faire. Il utilise des images ici destinées à nous faire comprendre qu'il estime avoir pleinement assumé sa vocation. Destinées à nous faire comprendre qu'au moment où sa mort se fait imminente, eh bien, l'apôtre Paul n'a pas de regret à ce moment-là. Il utilise l'image d'un combat qui en a valu la peine. J'ai combattu le bon combat. Il utilise l'image d'une course dont il est sur le point de franchir avec satisfaction la ligne d'arrivée. J'ai achevé la course. Et combien d'entre nous aimerions pouvoir en dire autant sur notre lit de mort? Vous avez peut-être entendu parler d'un livre intitulé Les 5 regrets des personnes en fin de vie, qui a été écrit par une infirmière en soins palliatifs, une femme australienne. Et ce livre a connu en fait un assez grand succès depuis sa parution en 2011. Et l'auteur dans ce livre révèle les 5 plus grands regrets des mourants, dont voici les 2 premiers. Premièrement, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je le voulais et pas comme les autres l'entendaient. Deuxièmement, j'aurais aimé ne pas travailler aussi dur. Mais que dit l'apôtre Paul dans ce texte à la fin de sa vie? Moi, j'ai vécu, dit-il, ma vie exactement comme je devais la vivre. Et par ailleurs, j'ai travaillé le plus dur possible pour ce qui comptait vraiment. Autrement dit, l'apôtre Paul, lui, était convaincu que le sens de sa vie était le bon. Et il n'en a aucun doute, arrivé à la fin de sa vie. Et même au seuil de la mort, là où il se trouve au moment où il écrit ces lignes, Cette conviction la remplit de paix, de confiance et de satisfaction. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Alors regardons ce qu'il ajoute juste après. Il dit avoir combattu le bon combat, il dit avoir achevé la course, et ensuite il dit avoir gardé la foi. Et juste après, il dit qu'une couronne de justice, c'est son expression, lui est réservée, une couronne qui lui sera donnée par Dieu. Alors ici, l'apôtre est en train de faire référence au message central, en réalité, de toute la Bible. De toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il est en train de faire référence à ce qui constitue le cœur même, le noyau, si vous voulez, de l'espérance chrétienne. Et je n'exagère pas en vous disant cela. Il fallait bien qu'au moment de mourir, les pensées de l'apôtre s'attachent naturellement à ce qui constituait le fondement de sa vie et de son service. Et ce message si essentiel, qui a conditionné la vie de l'apôtre, ce message qui a touché le cœur de Lucette il y a plusieurs années, ce message qui a transformé la vie de millions de chrétiens dans le monde depuis des siècles, c'est un message pas si compliqué en définitive. Il est constitué d'une mauvaise nouvelle et d'une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les hommes ont perdu le sens de leur vie parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu par leur indifférence et leur ingratitude. Et aux yeux de Dieu, les hommes sont devenus injustes à ses yeux, injustes et redevables envers Dieu d'une dette abyssale puisque c'est lui, leur créateur, qui leur a donné ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, à son tour, n'a pas tourné le dos aux hommes. Les hommes ont tourné le dos à Dieu. Mais Dieu, à son tour, n'a pas tourné le dos aux hommes. Au contraire, par amour, il s'est approché d'eux et il a mis tout en œuvre pour qu'ils soient réconciliés avec lui. Et pour cela, il a fait quelque chose d'absolument inouï. Dieu a revêtu la nature humaine en la personne de Jésus. Et il a vécu une vie parfaitement juste, là où tous les hommes avaient été et continuent d'être injustes. Et en offrant sa vie sur la croix, il a réglé volontairement, à notre place, cette dette abyssale qui nous séparait de lui. Et ensuite, il est ressuscité le troisième jour en signe de sa victoire sur le mal et sur la mort. Le résultat, c'est que tous ceux qui entendent ce que Dieu a fait, qui croient à ce que Dieu a fait et qui se fient entièrement à ce que Dieu a fait, découvrent leur véritable raison d'être et leur dignité dans cette relation rétablie avec celui qui les a créés. Et donc le jour où l'apôtre Paul a pris conscience de ce que Dieu avait fait pour lui par Jésus, eh bien ce jour-là, l'apôtre Paul a remis sa vie à Dieu. Et maintenant, au moment où il écrit ces lignes, il sait que son injustice aux yeux de Dieu, son injustice, elle est pardonnée. Et à la place, c'est une couronne de justice qui lui est destinée au paradis. C'est ce qu'il dit dans ce texte. C'est pas une couronne de justice qu'il a gagnée, qu'il a par ses propres mérites, si vous voulez. Mais c'est la couronne de justice de Jésus qui est attribuée à Paul, par pure grâce, par amour. Et d'ailleurs, elle n'est pas seulement attribuée à Paul, cette couronne de justice, elle est aussi attribuée à Lucette. Et elle est attribuée à tous ceux qui remettent, comme Paul et comme Lucette, leur vie humblement à Dieu par la foi. Et quand on fait confiance au Dieu de la Bible, au Dieu de l'apôtre Paul, au Dieu de Lucette, au Dieu des chrétiens, eh bien, ça transforme complètement la vision que l'on a de sa propre vie et du monde qui nous entoure. Ça change la vision qu'on a de l'avenir et de la mort et de ce qui vient après. Parce que d'après la Bible, quand on est ainsi réconcilié avec Dieu, on est aussi restauré dans son humanité, et cela pour l'éternité, pour toujours. Sans Dieu, nous ressemblons un peu à des appareils dysfonctionnels, si vous voulez, un peu comme une machine à laver qui ne tournerait pas bien, ou comme une voiture dont les vitesses ne passent pas, ou comme un ordinateur qui aurait attrapé un virus. Et c'est pour cette raison, c'est parce que nous ressemblons à des appareils dysfonctionnels que nous cherchons, ça et là, des repères pour notre vie, pour essayer de donner un sens à notre vie, pour essayer de faire en sorte de réussir notre vie, si possible. Parce que nous avons conscience que si nous ne faisons rien, notre vie, en fin de compte, sera un échec, comme un appareil dysfonctionnel qui est incapable de remplir correctement sa fonction et qui finit, en fin de compte, à la déchetterie. Mais la foi en Jésus, cette foi qui nous réconcilie avec Dieu, c'est aussi la foi qui nous restaure, qui nous répare, si vous préférez, comme des appareils autrefois dysfonctionnels, mais maintenant en processus de réparation, en vue de devenir un jour et pour toujours parfaitement fonctionnels. La foi en Jésus, c'est la foi qui a permis à l'apôtre Paul d'éprouver à la fin de sa vie une telle satisfaction, sachant qu'il reposait en sécurité entre les mains du souverain réparateur, si j'ose dire. Et donc, au moment où il écrit ces lignes, au moment où il sait que la fin de sa vie est imminente, eh bien, il a les yeux fixés sur le prochain rendez-vous majeur de son existence. Ce jour-là, dit-il dans ce texte, le jour de l'avènement du Seigneur ou de l'apparition du Seigneur. Et ici, il fait référence au jour du retour de Jésus et de la résurrection des morts, un jour auquel les chrétiens ont toujours cru, comme en témoigne le Credo, par exemple. Un jour dont il est souvent question, en fait, dans le Nouveau Testament. Et donc l'apôtre Paul a les yeux fixés sur ce jour, et c'est cela qui conditionne sa vie. C'est comme lorsqu'on apprend à conduire une voiture, vous savez, et qu'on nous dit, il faut regarder loin devant, et pas juste devant le capot, pas juste devant le pare-choc. Regarde loin, et c'est ça qui va t'aider à conduire droit, c'est ça qui va donner à ta voiture le bon sens. Ça va la mettre dans le bon sens. Et de même, l'apôtre Paul regarde loin, vers ce jour-là, dit-il, où tous les hommes ressusciteront pour comparaître devant Dieu, le juste juge, dit-il aussi dans ce texte. Le juste juge qui donnera à chacun son salaire. Le salaire, à certains, le salaire de leur injustice, pour ceux qui seront demeurés dans l'incrédulité, qui seront demeurés dans l'indifférence et l'ingratitude, mais pour d'autres, le salaire de la justice, mais pas de leur justice, le salaire de la justice de Jésus, pour ceux qui l'auront aimé en retour de son amour. Et donc cette réalité constitue pour l'apôtre Paul un repère solide. Un repère qui conditionne sa vie. C'est en fonction de cette réalité-là, et non de sa vie professionnelle ou sociale ou affective ou autre, c'est en fonction de cette réalité-là que l'apôtre Paul est en mesure, à la fin de sa vie, d'évaluer la réussite de sa vie. Vous voyez, le message que nous adressent ces quelques lignes, en définitive, est clair. Pour que le sens de ta vie soit le bon, assure-toi que la destination de ta vie soit la bonne. La raison de la paix, de la confiance et de la satisfaction de l'apôtre Paul, c'était sa foi chrétienne, sa foi en Jésus. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il en était de même pour Lucette. Cette foi en Jésus faisait porter son regard au loin, vers le jour de sa récompense, imméritée, mais qui lui était pourtant promise, non pas en vertu de ses mérites, mais en vertu de ce que Jésus a fait pour elle. Cette foi faisait porter son regard vers ce jour-là, le jour de sa joie et de sa consolation parfaite, vers le jour de son rétablissement définitif et de sa gloire éternelle. Et Lucette voudrait, à n'en pas douter, que nous tous ayons comme elle cette espérance vivante. Amen.